Alors bonjour, c'est SM pour La Grosse Radio. Je suis actuellement dans les locaux de Mogar Music France, à Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val d'Oise, pour m'entretenir avec Alain Gozo, qui est directeur du marketing et responsable des produits Tama pour Mogar, et qui est aussi un des batteurs français les plus réputés. Alors bonjour Alain.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors si tu veux bien, je vais commencer par retracer brièvement ton parcours, qui est assez impressionnant. Donc tu commences la musique à 8 ans par le saxophone. Très vite, tu t'orientes vers la batterie et c'est à 14 ans que tu formes Axis, donc ton premier groupe avec lequel tu reprenais du Jimi Hendrix.
C'est vrai.
En 1972, à 17 ans, les choses sérieuses commencent. Tu fondes alors le groupe Atoll, qui deviendra l'un des groupes de rock progressif les plus en vue de la scène française, aux côtés de Magma ou encore Ange.
C'est exact.
Atoll, c'est 5 albums studio, c'est beaucoup de concerts aussi, qui te permettent d'apprendre donc le métier de musicien et de faire des rencontres importantes pour la suite de ta carrière.
C'est vrai.
Parmi les gens avec qui tu as travaillé, on peut citer Bernard Lavillier, Sacha Distel, mais aussi John Wheaton,
oui,
de King Crimson, le chanteur du groupe Titanic aussi, avec qui tu as créé le groupe Embargo.
C'est vrai.
Ou encore des pointures internationales telles que Billy Cobham, Stuart Hamm, Tony McAlpin, Patrick Ronda ou Steve Vai. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns.
Voilà, un petit bout de l'histoire.
À ton actif, il faut aussi mentionner la création d'un ensemble d'une centaine d'écoles de batterie sur tout le territoire français dans les années 80.
Oui.
La direction pendant 20 ans de la partie pédagogique de Batteur Magazine et la réalisation d'une série de vidéos pédagogiques les plus vendues pour un artiste français. Tu as aussi été conseiller technique des marques Tama et Paste. Et tu es donc actuellement responsable d'une chaire à la Music Academy Internationale et à la Jazz Academy Internationale. Enfin, tu es responsable, donc on l'a dit, des produits Tama et directeur du marketing pour Mogar Music France.
Voilà, j'ai l'impression d'avoir au moins 250 ans avec tout ce que je viens d'entendre.
Et puis, bah, je pense qu'en plus, j'ai pas tout dit. Ça fait, c'est...
Oui, bon, bah, ça ira comme ça.
Ouais. Enfin, ça donne en tout cas une bonne idée du personnage, de tout ce que tu as pu faire.
J'ai toujours aimé être occupé.
Ouais, je vois ça. On va commencer par présenter Mogar un peu aux auditeurs pour savoir qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas forcément connu.
Complètement. En fait, Mogar, c'est le nom générique d'une société qui est en fait une filiale d'un groupe italien qui s'appelle le groupe Manzino, qui est un gros groupe qui est dans la musique depuis l'époque de la Renaissance italienne. Et Pierre et moi travaillons précédemment pour diverses marques, dont Tama, oui, que je représente, mais aussi Ibanez, par exemple, qui est la même famille au départ que les gens de Tama. C'est une famille japonaise qui s'appelle Oshino. Donc on a travaillé pour eux de façon diverse pendant une vingtaine d'années. Et puis est venu le temps de créer une nouvelle distribution en France. Et donc cette distribution, nous avons décidé de la créer avec donc ces partenaires italiens qui sont vraiment des gens de la musique. Hein. Il y a un musée à Milan, ils sont basés à Milan, qui est un musée historique de la ville, de l'histoire milanaise. Et il y a des produits qui sont déjà présentés de la famille Manzino, des mandolines, des luths, des choses comme ça. Donc on est vraiment, on travaille vraiment avec des gens qui sont la musique, quoi. Et c'était important pour nous de travailler avec des gens qui sont vraiment issus de ce milieu. Mogar France est donc une filiale de ce groupe Manzino. Et donc, eux, en Italie, ont à peu près une quinzaine de marques. Et en France, nous distribuons donc les guitares Ibanez, les batteries Tama, les effets numériques Zoom, les amplis de basse professionnelle Marc Bass, et puis aussi, parallèlement, une marque de cuivre qui s'appelle Alizé. Voilà. Donc, on est en charge de tout le territoire français. Ce qui veut dire que nous travaillons avec un réseau d'environ 500 magasins détaillants de musique. Et aussi, bien sûr, notre vocation, et c'est mon travail au premier chef, c'est de mettre en valeur ces produits de toutes les façons possibles, donc par le biais d'artistes, de magazines, etc., etc. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard.
Tu me disais tout à l'heure que le marketing, c'est pas seulement la publicité, que c'est plus large comme,
oui, c'est vrai,
comme appellation, on va dire.
Alors, le marketing d'aujourd'hui, va-t-on dire, c'est, là aussi, pour essayer de simplifier les choses, je vais essayer d'expliquer, d'imager le truc, c'est qu'on a un produit qui arrive, prenons l'exemple d'une nouvelle guitare ou d'une nouvelle batterie. Mon boulot, c'est de faire tout ce qu'il faut autour pour que ce produit soit connu du public et brille, va-t-on dire, et une certaine brillance. Hein. Donc, ça veut dire que il faut déjà donner une explication technique à nos représentants. Qu'est-ce que c'est le produit ? Comment il va se placer par rapport au marché ? Combien il va coûter ? Qu'est-ce qu'on peut trouver par rapport à la concurrence comme avantage de ce produit par rapport aux autres ? Comment va-t-on le vendre aux clients ? Voilà, ça, c'est une partie du marketing.
Donc, il y a un travail de recherche, de prospection pour savoir ce qui se fait.
Complètement. Il y a des études de marché hein, au niveau des produits concurrentiels et au niveau des prix et au niveau dont nos concurrents vendent ces produits. Voilà. Et comment on se place dans ce marché qui est un marché quand même important et vivant et pugnace. Hein. On a affaire à des gens en face de nous qui ne sont pas des rigolos. Mmh. Donc, voilà. Et donc, bien sûr, aux alentours de tout ça, il y a globalement tout ce qui met en valeur les marques. Alors, ça veut dire les publicités dans les magazines, des opérations de giveaway avec des magazines et des radios. On parle de radio, on a fait récemment une grosse opération avec WeFM, que je pense que vos auditeurs connaissent, qui est une radio rock. C'est aussi travailler avec beaucoup d'artistes, avec les télévisions, avec les tourneurs, pour savoir sur une grosse date, je ne sais pas, le Hellfest par exemple, comment Tama, Ibanez ou Marc Bass peut se placer, soit au travers de groupes avec lesquels nous sommes en contrat, soit simplement pour équiper les scènes du festival. En fait, le panel est très large. Mais disons qu'à la base, mon boulot, c'est de mettre en valeur les instruments qu'on distribue.
Ouais.
Voilà, de toutes les façons possibles et imaginables.
De permettre une exposition aux marques et de mettre en valeur les nouveaux produits.
Voilà, hein, ce que les marques au premier chef, mais bien sûr Mogar Music au second chef, puisqu'on est distributeur, me demandent, c'est que on nous voit bien partout, qu'on soit bien représenté, qu'on ait une belle image, parce que aujourd'hui l'image. Ça fait, bien sûr, il faut qu'il y ait un aspect qualitatif derrière. Mais l'image, c'est 50% de la marque, quoi. Après, bien sûr, il faut le suivi. Mais l'image, c'est vraiment primordial. Mmh. Voilà mon travail.
Et donc, oui, on disait tout à l'heure que tu as travaillé 20 ans pour Batteur Magazine.
Oui.
Donc ça, c'est pareil. C'est d'avoir été à l'intérieur d'une rédaction pour ton travail actuel, c'est un atout aussi.
Complètement, parce que je sais comment fonctionnent les magazines.
Voilà.
En plus, j'ai gardé beaucoup d'amitié dans beaucoup avec beaucoup de gens de la presse.
Ah oui.
Hein, bien sûr, quand on passe 20 ans de son existence à bosser dans un milieu, on garde des rapports, je veux dire, plutôt sérieux et sympathiques, donc ce qui est le cas. Et puis, ça fait aussi comprendre les rouages, hein, parce que la presse, c'est une grosse machine qui ne s'arrête jamais, quoi. Donc, il y a des dates butoirs pour rendre des documents. Mmh. Et on sait que s'ils nous disent qu'il faut rendre pour le 20 juillet, ce n'est pas le 21, parce que le 20 juillet, le magazine il part en impression et c'est trop tard. Donc, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses avec les gens de la presse. D'une part, avoir un timing précis, mais aussi être pointu dans des articles, aller à l'essentiel, essayer d'aller dans le sens du lecteur. Ce n'est pas toujours évident, donc ça forge. J'avoue que... Après 20 ans, en fait, j'ai quitté Batteur parce que mes occupations dans Mogar devenaient plus prenantes et plus importantes, puisque Mogar existe depuis 2003, donc c'est cette année-là que j'ai quitté Batteur. Mmh. J'avoue que j'avais mal au cœur parce que c'était 20 ans de mon existence, hein, et 20 ans de moments et de rencontres exceptionnelles. Mais ne plus avoir cette angoisse de rendre les documents pour la date, j'ai poussé un énorme ouf,
ouais.
de 20 ans de soulagement. Voilà, pour la petite histoire.
Dans cette seconde partie, j'aimerais parler un peu plus de toi, laisser de côté ton travail et puis retracer un petit peu les grandes étapes, on va dire, de ta carrière. Mm-hmm. En commençant par Atoll,
oui.
Parce que c'est le groupe qui t'a permis de te faire connaître mmh. Et puis de te professionnaliser aussi.
Oui.
Et c'est intéressant aussi parce que c'est les débuts du rock.
Ce qu'on appelait le rock français à l'époque.
Ouais.
Puisqu'on chantait en français.
Ouais.
Ouais. Ça va durer 3 heures. Je vais... Disons que...
C'est une aventure qui a duré combien de temps?
10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait 5 albums. On a fait aussi beaucoup de 45 parce que Atoll s'est distribué dans beaucoup de pays. Et on a eu, à part en France, où on avait un succès, je dirais plus que d'estime, pour un groupe qui faisait de la musique rock progressive, on a notre plus gros succès, notre plus grosse vente d'albums ont été au Japon, où il existe toujours aujourd'hui un fan club d'Atoll d'ailleurs.
Ah ouais.
Donc c'est assez rigolo et anachronique. Hein. En fait, le groupe Atoll est un pur produit des années américaines de ce qu'on a appelé le Flower Power.
Mmh.
Hein, donc le Summer of Love en 67, etc. C'est-à-dire, on est les descendants des groupes au départ d'Atoll, comme les Crosby, Stills & Nash, les Jefferson Airplane, dans un aspect un peu plus rock, les Hendrix, etc., etc. Parce que les premiers singles qu'on a sortis, qui ont à l'époque fait les beaux jours d'RTL et d'Europe, étaient des choses un peu country rock avec beaucoup de vocaux, etc., etc. Et je dois dire que au grand dam de notre maison de disques, après 2 singles qui avaient plutôt pas mal marché, on a découvert des groupes qui étaient un peu plus évolutifs, va-t-on dire.
Progressifs, on dirait maintenant.
Voilà, on dirait progressifs aujourd'hui, qui s'appelaient Yes, Genesis, mais il y en avait d'autres, il y avait... Gentle Giant, des groupes de ce gabarit, il y avait Soft Machine, et on s'est peu à peu tourné vers cette musique un peu plus complexe, qui nous a amené à enregistrer des albums plus conceptuels, mm-hmm. c'est-à-dire des albums où il y avait une face ininterrompue, 20 minutes de musique ininterrompue, des choses comme ça.
En fait, à cette époque-là, vous auriez pu céder à la facilité en faisant de la musique qui marche, on va dire.
Surtout que, bon, je ne sais pas si le jeune public de votre radio connaît ça, mais on était typé, avec les premiers singles d'Atoll, on était typé dans une variété française un peu commerciale, avec des belles mélodies, des beaux vocaux. Un peu, on nous avait dit, vous êtes les concurrents d'Il était une fois. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
Moi, ça ne me dit rien.
Fois, ça te dit rien. C'est un groupe qui a fait des tubes dans la variété en France. Mmh. J'ai encore rêvé d'elle, etc.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc, on avait cette mouvance. Et radicalement, on a dit à notre maison de disque qu'on ne peut plus faire ça. Donc, pleurs et grincements dedans.
Donc, la musique a primé.
La musique a primé. Mmh. Et puis aussi, la plupart des membres d'Atoll, on aimait bien notre instrument, donc on travaillait beaucoup. Et à un moment, on se sentait enfermé dans cette musique, finalement, qui ne faisait pas reconnaître nos instruments respectifs. Donc, la maison de disques nous a dit, bon, ok, on vous laisse votre chance, parce qu'ils sentaient quand même qu'il y avait des frémissements dans le rock français. Et je pense qu'ils ne l'ont pas regretté, parce que, bon, on n'a peut-être sans doute pas vendu le nombre de singles qui auraient été espérés en restant dans la variété, mais on vendait quand même beaucoup d'albums. À l'époque, Atoll vendait dans les 40 000 albums, ce qui est quand même un nombre assez impressionnant sur chaque album. Hein.
Ouais.
Et donc, ils n'ont pas regretté, et nous, on a pu faire notre musique. Je pense sincèrement que ce serait des choses quasiment impossibles aujourd'hui, vu le marché de la musique. Mais il y avait beaucoup moins de groupes sur le marché.
Bien sûr, oui.
Il y avait beaucoup moins de maisons de disques. Et les maisons de disques avaient chacun un panel de 5 ou 6 artistes rock. Alors, disons plutôt rock standard, plutôt rock un peu country, plutôt rock variété, rock progressif, voilà. Et nous, dans notre maison de disques, qui était Ariola, qui est donc BMG aujourd'hui, on était le groupe de rock progressif.
D'accord.
Voilà, je dois dire que pendant ces 10 ans, ils nous ont plutôt beaucoup aidés.
Ouais.
Ce qui a fait notre force, c'est que je pense qu'on avait une originalité musicale et en plus on chantait en français, donc ce qui nous démarquait des groupes comme Yes, Genesis, etc. Et puis aussi, on tournait énormément. On tournait comme des malades. Donc, ce qui fait qu'on a eu une reconnaissance publique assez importante, ce qui nous avait aidé à vendre à l'époque beaucoup d'albums.
Je voulais justement y venir. Vous avez tourné en France, mais certainement aussi à l'étranger.
Oui. Mmh.
Et pendant ces 10 ans, j'imagine que ça t'a permis aussi de rencontrer d'autres musiciens, de te faire des contacts.
Ouais. Donc, on a beaucoup tourné à l'étranger, mais les principales rencontres, je les ai faites en France, en fait, parce que lorsque on allait enregistrer les albums avec Atoll, on l'enregistrait dans des gros studios parisiens. Et à cette occasion, je rencontrais beaucoup de musiciens de studio, dont des batteurs célèbres, Ceccarelli, Pierre-Alain Dahan, etc., Roger Fugène à l'époque, et je leur ai demandé comment je pouvais, moi, un jour, venir musicien studio. Ils m'ont donné des plans, des méthodes, etc., etc. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pu aussi accompagner d'autres gens, faire de la variété, faire du big band. Bon, j'étais déjà un peu préparé parce que je savais lire. Et quand j'étais jeune batteur, j'avais fait de la variété, j'avais joué au théâtre, accompagné les opérettes et tout. Donc, mais pour moi, c'était l'aboutissement. Donc voilà.
D'accord. On va revenir sur l'aspect pédagogique dont on t'a parlé, parce que il y a un journaliste qui un jour t'a appelé le messager d'ailleurs. Donc ça, c'est parti d'un constat, le fait que à cette époque, tu me le disais tout à l'heure, les batteurs professionnels rechignaient finalement à transmettre leur savoir. Et toi, ça, c'est quelque chose qui t'a touché pendant
formation. Quand j'ai commencé à jouer de la batterie, bien sûr, j'habitais dans la campagne, hein, dans un petit village, donc j'allais voir les baluches, puis je guettais les batteurs à la télé. Et quand j'avais la chance de voir des gens qui tenaient un peu la route, je leur demandais des conseils, et souvent ça se soldait par un échec. Donc je me suis toujours dit, si un jour j'ai la chance d'accéder à un niveau sympa, mon savoir, j'essaierai de le passer. Ça a été ma démarche. En fait, rejoignant mon histoire, mon historique chez Tama, je suis rentré chez Tama parce que j'ai rencontré les gens de chez Tama pour la première fois pour leur proposer une idée d'école. Parce que je leur ai dit, voilà. En France, partout dans le monde d'ailleurs, il y a des écoles de batterie, de guitare et tout, mais il n'y a pas de circuit de réseau national en France et il n'y a pas de réseau lié à une marque.
Et alors ça, c'est assez énorme. Raconte cette histoire.
J'y croyais pas parce que, bon, déjà, pour les rencontrer, j'avoue que ça n'a pas été très simple. Hein. C'était des rencontres avant avec des gens qui les connaissaient, mais qui me prenaient un peu pour une hurluberlu. Enfin, c'est peut-être un peu extrême, mais bon. Donc, je n'arrivais pas à les recontacter, je n'arrivais pas à avoir des rendez-vous. Puis un jour, on m'a dit... Parce qu'en fait, j'avais cette idée de faire des démonstrations dans toute la France pour une marque de batterie, en l'occurrence Tama. Et ça n'existait pas non plus.
Ouais.
Donc, je suis venu proposer un package. Et je leur ai dit, écoutez, il y a un truc formidable à monter, c'est de se balader dans tout le pays, de jouer dans les conservatoires, dans les magasins de musique, dans les écoles de musique, pour montrer le matos, live, et en même temps,
transmettre un savoir.
Et ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant. On va vous écrire. Et bien sûr, quand on m'a dit ça, j'y croyais pas. Puis un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était le distributeur français à l'époque, monsieur qui s'appelait Michel Dora, qui est devenu un ami après, qui m'a dit, écoute, si tu veux, il y a les Japonais qui sont sur le salon de la musique. C'était en 1980. Si tu veux, tu viens, tu joues devant eux, puis après tu leur parles.
C'est cette activité de directeur en fait de plusieurs écoles en France, une centaine, qui t'a permis aussi de faire de nombreuses rencontres, parce que j'imagine que il a fallu trouver d'autres professeurs.
Oui, alors il faut dire qu'au début, donc quand j'ai commencé à le faire pour Tama, c'était en 81, et j'étais parallèlement encore musicien professionnel.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que je cumulais les fonctions de effectivement directeur des écoles, de démonstrateur officiel pour Tama, que j'ai fait aussi après à l'étranger. Et parallèlement à ça, je jouais encore avec, à l'époque, Distel, j'ai enregistré des albums avec Wetton, etc. Et dans les festivals, et ça c'était grâce à des gens de la presse, il y avait les festivals des festivals de guitare qui se passaient dans le sud, des choses comme ça. Je faisais partie des rythmiques, voilà, qu'on appelait pour venir accompagner les artistes. Et c'est comme ça que j'ai joué avec, par exemple, Patrick Ronda, avec McAlpine, avec Vaille, tous ces gens-là, et que j'ai fait des rencontres. C'est vrai que c'est une question d'opportunité, de rencontre de gens qui m'ont aidé. Bon, après, il faut faire le taf, il faut essayer de bien le faire, hein, ça ne marche pas toujours. Ça dépend comment on est, ça dépend de plein de choses aussi, ça dépend de la façon dont on sent en osmose ou pas avec l'artiste. Mais c'est quand même, malgré tout, cette voix, on va dire, avec Tama, qui m'a fait développer toutes les choses que j'ai faites autour, après Atoll.
Voilà, en fait, c'est un petit peu l'effet boule de neige.
Exactement.
Voilà. Les rencontres amenant d'autres rencontres.
Complètement. Hein? Alors, comme je disais à l'instant, après le taf, il faut le faire, quoi. Les rencontres ne suffisent pas. Mais disons que j'ai quand même toujours eu de la chance. Voilà, parce que dans notre métier, dans les métiers de la musique, dans les métiers artistiques, il faut quand même la chance, il faut croiser les bonnes personnes au bon endroit. Et j'ai eu la chance d'en croiser pas mal qui m'ont vraiment donné des gros coups de pouce, quoi. Donc, s'il y en a qui écoutent, ils se reconnaîtront. Mais moi, j'ai des pensées émues pour certains qui m'ont vraiment beaucoup aidé.
Je voudrais te poser une dernière question. Oui. J'aimerais avoir ton avis sur l'évolution du monde musical en France en particulier. Mmh. Tu disais tout à l'heure, et ça, j'ai pu le remarquer aussi, ça fait une petite vingtaine d'années que je fais de la musique, et j'ai remarqué aussi que le niveau, notamment des musiciens, avait considérablement augmenté, et il y a de plus en plus de groupes. Au-delà de ça, le paysage a beaucoup changé, beaucoup plus de groupes, beaucoup plus aussi de petits labels, et puis avec l'explosion de l'informatique, aussi des moyens à la portée de tout le monde pour enregistrer. Comment tu as perçu toute cette évolution, et quels sont les points positifs, les points négatifs à ton avis ?
Les points positifs, c'est que restant moi-même passionné de musique, plus il y a de musiciens, plus je suis content.
Ouais.
Et en plus, je dirais qu'effectivement, le niveau ayant largement évolué par rapport à la période où j'ai commencé moi, quand j'étais gamin, je trouve ça fantastique. Je vois plein de jeunes qui jouent vachement bien, vachement en place, vachement juste, qui font des compositions qui tiennent la route. Et donc, je dirais même que, voyez, lié à notre business à nous, c'est formidable parce que le business de la musique, de la vente d'instruments de musique se porte bien, en tout cas pour les grandes marques. Donc ça, c'est le côté génial. Le côté négatif tel que je le reçois, moi, c'est que malheureusement, le fait qu'il y ait beaucoup de monde sur le marché et beaucoup de monde de qualité complique beaucoup les choses. Quand je vois aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes musiciens et que je les entends dire que pour faire la première partie d'un groupe connu, on est souvent obligé de payer maintenant.
Ouais.
Moi, je trouve ça sincèrement lamentable, quoi. Je trouve que c'est l'effet pervers parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour faire du blé sur le dos des gens qui n'en ont pas beaucoup et qui, grâce à leur notoriété, profitent de la situation. Donc ça, sincèrement, ça ne me plaît pas. Je dirais que j'ai eu la chance aussi de connaître une période où jouer était relativement facile. Et je ne dis pas qu'on jouait pour cher, mais en tout cas, ça nous permettait de vivre de la musique. En payant nos frais et puis en ayant des salaires petits, mais en tout cas, encore une fois, qui nous faisaient vivre de la musique. Et aujourd'hui, je vois beaucoup des groupes qui jouent et qui ont un statut musical professionnel, c'est-à-dire qui jouent bien,
ouais.
Et qui malheureusement sont obligés d'avoir des boulots à côté pour pouvoir survivre, ouais. Pour pouvoir faire leur musique. Et c'est aussi un côté, je pense, encore une fois, pervers des temps. Donc, que dire de tout ça ? Je vais dire, en essayant de finir sur un aspect positif, c'est que la musique progresse et la musique adoucit les mœurs. Et la musique, pour moi, c'est le message universel de la paix, parce que les musiciens, ils ne se battent pas entre eux. Leur manager peut-être, mais un peu moins les musiciens.
Ouais.
Je ne peux pas être plus heureux que dans un monde qui évolue vers plus de musique et plus de musiciens. Voilà.
Je vais finir par te demander s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, une chose que j'aurais oublié de te demander, qui te tiendrait particulièrement à cœur de dire.
Difficile à dire comme ça, mais dans l'absolu...
Tu parlais de paix, et au début de l'interview, tu parlais de ce mouvement Flower Power, auquel tu as participé.
Oui.
Peut-être un idéal, quelque chose...
Mon idéal, il est celui de beaucoup de gens, c'est de vivre dans un monde de paix, en bonne santé, et puis avec ce qu'il faut pour vivre. On sait pas très original, mais je dirais, en parlant du Flower Power, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais très jeune, mais je pense que malheureusement on a fait un peu l'amalgame entre, parce qu'à l'époque c'était la guerre du Vietnam, entre les pauvres jeunes qui allaient là-bas et qu'on a vraiment pris pour des parias et des salopards et qui faisaient qu'exécuter une mission qu'ils n'avaient pas le choix de ne pas exécuter.
Ouais.
Donc j'ai pris un peu de recul avec tout ça et je pense que comme toujours les fautifs c'est ceux qui sont à la tête, qui voient jamais le front, qui voient jamais le sang, mais qui prennent les décisions pour les autres, quoi. Donc, oui, mon idéal, aujourd'hui, il y a d'autres luttes à mener dans le monde, mais je suis au plus profond de moi-même un homme de paix. Et pour en revenir à la musique, j'ai mon plus grand plaisir, puisque je vais encore régulièrement, bien sûr, passer la bonne parole quand je vais à Musique Académie à Nancy, c'est de faire passer ce message de musique, de paix, de technique. Je veux absolument mon savoir ou ce que je peux encore apprendre aujourd'hui, le faire passer aux plus jeunes générations. Voilà, voilà. Et que dans mon métier, je suis toujours un peu malheureux quand je vois des gens qui jouent bien, que je trouve sympa et que je ne peux pas signer, parce que je ne peux pas signer tout le monde.
Ouais.
Le monde est ainsi fait. Mais bon, sans faire de démagogie, j'ai quand même souvent un petit pincement au cœur, quoi. Donc, parce que je me suis trouvé de l'autre côté de la barrière.
Ouais.
Donc je sais ce que c'est d'essuyer un refus, quoi. C'est pas toujours drôle. Voilà, mais la vie est ainsi faite. Merci de m'avoir reçu.
Merci à toi, Alain
Gozo. C'est un grand plaisir.
Pour moi aussi.
Le bonjour à tous les auditeurs. Et puis, vive la musique. Et puis, comme on le disait à l'époque du Flower Power, love and peace.
Ouais, love and peace. Ouais.
Love and peace. Mmh.
Grand merci. Et puis, bravo pour tout ce que tu as fait et puis tout ce que tu feras.
J'espère. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était SM pour la Grosse Radio en compagnie d'Alain Gozo. Nous étions dans les locaux de Mogar Music France à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise.
Bonjour, c'est Alain Gozo pour la Grosse Radio, là où ça gratte. Vive la musique et prenez du plaisir en écoutant tout ce qui se passe sur cette super radio. Ciao!